Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Derrière les sens, tu vois que la raison a l'aile courte, écrit Dante, quand après avoir traversé l'enfer et le purgatoire, il arrive enfin au paradis. Comment décrire une expérience qui dépasse la pensée? Comment passer le relais aux mots quand l'imagination elle-même n'atteint pas le degré extatique de ce qui est vu? Aujourd'hui, les chemins de la philosophie lisent la Divine Comédie de Dante et vous conduisent aux portes du paradis avec, pour premier guide, Tony Bennett.
Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw.
Bonjour Carlo Ossola.
Bonjour, bonjour madame.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur au Collège de France, vous occupez la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine, l'auteur d'une introduction à la Divine Comédie publiée aux éditions Le Félin, et c'est avec vous que nous allons entrer au paradis, aux côtés de Dante. Tony Bennett chante Stranger in Paradise, un étranger au paradis. C'est le cas de Dante quand il arrive au paradis.
Et nous également.
Et nous encore plus. Comment ne pas se sentir étranger? C'est ça qui est étonnant dans cette expérience.
Voilà. D'abord, nous avons bien commencé, puisque l'un des signaux les plus importants pour marquer l'harmonie qui existe au paradis est précisément la musique. Et au centre même du paradis, au chant 17, Dante dit que le futur vient vers le présent exactement comme une douce harmonie émane des orgues. Alors, vous voyez que pour préfigurer l'unité de temps qui existe dans la plénitude du paradis, Dante utilise une comparaison tirée de la musique. Et ça, c'est très augustinien, de ordine de musica, c'est-à-dire la musique interprète l'ordre du monde et le paradis, comme c'est un lieu de gloire, c'est un lieu également de bonheur chanté, de plénitude qui harmonise les différences des bienheureux.
Ce qui n'était pas le cas des autres voyages que nous avons faits depuis lundi en enfer. Les sons que l'on entendait étaient les hurlements des damnés ou les soupirs de ceux qui ne savaient pas quand ils allaient en sortir. Au purgatoire, les âmes éthérées, sans corps et donc drapées d'ombre en guise de corps, avaient plus le bruit du souffle qui correspondait à leur déplacement que celui d'une mélodie. Le paradis, au contraire, instaure cette harmonie, y compris par les sons. Il faut le dire d'emblée, ce texte-là est très différent des autres et dès la première page, Carlo Ossola, on entend cette singularité. C'est un texte qui ressemble à une sorte de poème lumineux qu'on ne sait pas trop comment lire.
Oui, c'est une très belle formule, un poème lumineux. Les deux éléments essentiels sont d'un côté la lumière, d'autre côté le chant, et aussi le mouvement des bienheureux qui descendent vers Dante, parce que Dante n'a pas encore la capacité de les voir dans leur gloire, et le mouvement ascensionnel de Dante qui va petit à petit vers l'Empire. Alors, la structure du paradis.
Oui, décrivez-nous, que voit-on
voilà,
au paradis?
C'est une structure céleste. On monte petit à petit d'une planète à l'autre, en commençant par le ciel qui est plus proche à nous, c'est-à-dire la Lune, et puis il y aura les étoiles, le ciel des étoiles fixes, et puis l'Empire. Donc, c'est un royaume de l'infini, et dans l'infini. Mais en même temps, la Terre qui nous fait si cruel c'est un vers de Dante, n'est jamais oublié. Donc, elle revient, je dirais, dans une espèce de condensation, ce qui fait que le réalisme de Dante, que l'on admire certainement, dans l'enfer, revient de temps en temps au paradis. Mais je dirais que la structure profonde, on la voit déjà au premier mot du premier chant, la gloire. La gloire. Et il faut rappeler que l'annonce que les anges font au berger à la naissance du Christ est « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Alors, le paradis est l'interprétation de cette annonce de la gloire. Nous avons un peu oublié le fait que nos gloires terrestres sont si misérables qu'on a presque oublié le substantif « gloire » avec « G » majuscule. Mais chez Dante, c'est vraiment la gloire qui nous importe. La gloire est un attribut de Dieu. Et dans les temps classiques, elle était aussi prêtée, pour ainsi dire, aux grands empereurs. Mais c'est quelque chose qui ne concerne que ce qui est stable, définitif, infini, donc Dieu. Et le premier substantif au premier vers du premier chant est en effet la gloire, permettez-moi juste de le dire en italien pour une fois, puis on reviendra au français, la gloria di colui che tutto muove. Alors, ce muove, qui met en mouvement, est aussi toujours la participation de la pensée de Dante. Nous sommes face à un vrai philosophe, à, je dirais dans les termes grecs, à les données kinétiques, c'est-à-dire le plaisir qui vient du mouvement, plutôt que de les données catastématiques, c'est-à-dire du plaisir qui vient de la contemplation. Oui, Dante contemple les beautés du paradis, mais c'est pour mettre en mouvement notre volonté. Donc, dans ce premier vers, et aussi dans le dernier, le verbe est le même, « muove », mais en mouvement. Je dirais que Dante est un grand aristotélicien.
Alors, on va laisser la parole à Dante à travers la voix de Georges Claes qui lit les textes pour nous cette semaine. Dante nous invite à le rejoindre dans une petite barque qui, justement, va se mettre en mouvement. Écoutez.
Ô vous qui êtes en une petite barque, désireux d'entendre, ayant suivi mon navire qui vogue en chantant, retournez revoir vos rivages, ne gagnez pas le large, car peut-être en me perdant vous seriez égarés. L'eau que je prends n'a jamais été parcourue. Minerve souffle, Apollon me conduit, et neuf muses me montrent les ours. Vous autres, peu nombreux, qui avez levé à temps le col au pain des anges dont ici on vit, mais dont on n'est jamais rassasié, vous pouvez mettre en haute mer votre bateau en suivant mon sillage avant que l'eau ne redevienne égale. Ces glorieux qui allèrent à Colchos ne s'étonnèrent pas autant que vous ferez lorsqu'ils virent Jason devenir laboureur. La soif innée et perpétuelle du règne déiforme nous emportait, rapide presque autant que vous voyez les cieux. Béatrice regardait en moi et moi en elle. Et dans le temps peut-être qu'une flèche s'arrête, vole et quitte l'arc, je me vis arriver là où une merveille attira mes yeux. Et alors, celle de qui ma pensée ne pouvait se cacher, tournée vers moi, joyeuse autant que belle. « Dresse ton esprit reconnaissant vers Dieu, dit-elle, qui nous a joint à la première étoile. » Il me semblait qu'un nuage nous couvrait, brillant, épais, dense et poli, comme un diamant frappé par le soleil. À l'intérieur de soi, cette perle éternelle nous reçut, comme l'eau reçoit un rayon de lumière en restant close. Thank you.
C'est au champ 2 du paradis que la dernière traversée va avoir lieu, Carlo Ossola, et on entend le passage des fleuves que nous avons traversés jusque-là, du souffle et des rivages, vers les étoiles et les planètes. C'est une forme d'ascension qui est aussi, disons, élémentaire. On change d'élément au paradis.
Tout à fait. D'abord, c'est un air transparent et ce commencement inoubliable du chant 2 du paradis nous ramène au chant 26 de l'enfer, c'est-à-dire au dernier voyage d'Ulysse. Dante est, je dirais, hanté même par ce voyage. Il prête à Ulysse dans l'enfer des mots merveilleux. Vous êtes fait pour suivre la vertu et la connaissance. C'est une espèce de manifeste précoce de l'humanisme. Mais en même temps, Ulysse est condamné. Condamné parce qu'il a été orgueilleux, parce qu'il a voulu tout fonder sur ses moyens propres, au lieu d'attendre la révélation et la grâce. Alors, Dante ici répète, presque avec les mêmes mots, dans l'enfer, nous trouvons « Finché il mar fu sovranoi richiuso », jusqu'au moment où la mer se clôt au-dessus de nous. Eh bien, ici, nous avons les mêmes mots, « Dinanzi all'acqua che ritorna equale », donc qui se ferme. Et Dante met le lecteur dans la condition de devoir choisir.
Oui.
Faites attention, parce que si vous prenez un chemin pour lequel vous n'êtes pas préparé, comme Ulysse, eh bien, vous pouvez faire naufrage.
Donc, c'est Dante qui se place dans la position du guide pour le lecteur, cette fois-ci.
De guide pour le lecteur, et il revient, si vous voulez, à l'esprit de quête d'Ulysse. Seulement, c'est une quête, comme on le voit tout de suite après, avec le discours de Béatrice, qui est, je dirais, dirigée par le don de la grâce. L'homme avance par le désir et la grâce le comble. Pour nous référer à un auteur qui voulait terminer sa carrière par Dante, c'est-à-dire Roland Barthes, dans son rêve de Vita Nuova, c'est l'un des ouvrages de jeunesse de Dante, eh bien, Barthes nous donne une formule qui est parfaite pour comprendre Dante, c'est-à-dire la jouissance dépasse toujours le désir qu'il avait formulé. Et au paradis, on est dans cette condition. Le désir devient plus subtil, plus aigu, mais la grâce, enfin la jouissance de pouvoir contempler ses beautés éternelles, comble et dépasse le désir qu'il avait formulé. Et donc nous sommes constamment dans une situation de dépassement. Dante le dit dans un autre vers du Purgatoire, ce bonheur que satiando di sé a sé, c'est-à-dire ce bonheur qui nous comble et qui nous donne la soif pour le dépasser. Nous sommes toujours complets et pleins de soif. Et le paradis change, je dirais, les paramètres du Purgatoire. Dans le purgatoire, on a encore soif, et ici, on est de plus en plus comblé. Voilà, je dirais que c'est un chemin de plénitude. Voilà. Mais ce chant 2 nous donne toujours la flèche du voyage, comme Mandelstam le dit si admirablement. Je ne sais pas si Mandelstam était au courant des plans soviétique, ça m'étonnerait parce qu'il est condamné justement par Staline, mais il dit que la Divine Comédie est comme une fusée à trois stades. Donc l'un brûle et lance l'autre, et qui brûle à son tour et lance l'autre. Alors, je ne sais pas s'il y avait des plans secrets, mais en même temps, c'est comme une fusée qu'on a connu bien plus tard dans la, je dirais, dans la conscience militaire de notre vieille Europe. Mais Mandelstam pense déjà à Dante comme une espèce de grande fusée vers l'éternel.
Ce qui est étonnant, vous avez prononcé le terme d'humanisme, c'est que si on suit Dante à travers son périple et que le paradis est quand même le lieu où l'on doit arriver, au bout du voyage, même si on pourrait lire la Divine Comédie dans l'ordre de son choix, il y a quand même une ascension qui a lieu. Si en dernier lieu, comme vous venez de le dire, la grâce, c'est-à-dire peut-être la jouissance en termes laïques, est condition de notre bonheur, de notre plénitude, alors ça veut dire que l'homme n'est rien sans cette grâce et que l'homme n'est rien sans Dieu. Est-ce qu'on peut encore parler d'humanisme ?
Je dirais oui. D'abord, nous avons une déclaration fondamentale de Virgile qui représente la raison. Au moment où il doit abandonner Dante parce que Béatrice descend, il dit « Eh bien, moi, je vais partir, mais je te couronne au-dessus de toi-même. Sovrate te corone mitrio. » Alors, l'humanisme est là. C'est à peu près la même phrase que Erasme dira dans ses pensées, mais constamment, je dirais, surtout dans l'essai de Libero Arbitrio, sur le libre arbitre. La raison nous donne les moyens pour nous élever au-dessus de nous, ce qui n'est pas donné aux autres animaux. Et je dirais que là, c'est le principe même de l'humanisme. La grâce ne vient pas tuer ou, je dirais, amoindrir la raison, elle vient la combler. Il n'y a jamais contradiction entre une raison qui veut se lever au-dessus de soi et la grâce qui vient, je dirais simplement, ouvrir.
À cette époque-là, en tout cas, il n'y a pas de contradiction entre la raison et la grâce.
Non, pas de contradiction. Et je dirais que la pensée occidentale, d'une certaine manière, a suivi Dante et quelquefois a été même en deçà de Dante. Quand Pascal nous dit que la raison ne consiste qu'à dans l'exercice de connaître ses limites, dit une chose que Dante a dit à propos d'Ulysse, mais ne donne pas la deuxième partie, c'est-à-dire que l'élan proprement dans les termes bergsoniens, si vous voulez, l'élan de connaissance est toujours un élan qui nous mène au-dessus de nous-mêmes. Si nous avons, comment dirais-je, l'attitude humble de recevoir. Et dans les termes, si vous voulez, de la physique d'Aristote, plus grand est le réceptacle et plus il y aura de contenu. Alors, ce qui est nécessaire, c'est que la raison élargisse le réceptacle. Il ne faut pas casser le réceptacle.
C'est ce qu'on trouve avant Dante, chez Avicenne, chez Averroès également.
Oui, bien sûr. Alors, Dante cite constamment dans son banquet, qui est un ouvrage philosophique tout à fait digne, le De Anima d'Avicenne. Or, évidemment, Dante ne connaissait pas Avicenne directement, mais il le connaissait par le biais de ses interprètes, et notamment par les grands philosophes du Moyen-Âge qu'il met au paradis, y compris Siget de Brabant, qui avait été condamné par l'Église. Dante a une très grande liberté quand son système, je dirais, d'exaltation de tout ce qui est humain, peut être mis au service, je dirais, d'une plus grande dignité de l'homme.
Dans le texte que nous avons entendu, Béatrice est présente, elle pénètre sur la surface de la Lune, on est dans la sphère qui correspond au ciel de la Lune, comme un rayon de soleil à travers une goutte d'eau, c'est ainsi qu'elle est décrite, on voit déjà la présence de la lumière, mais aussi de l'élément aquatique qui reste. Et très vite, elle en appelle à la première étoile, et je rappelle que c'est le terme d'étoile qui va terminer, enfin le dernier vers du paradis contient le mot d'étoile, donc ce sera là aussi un autre guide. Et ce personnage de Béatrice, on en a encore très peu parlé finalement, parce qu'on sait que c'est elle qui invite Dante à ce voyage, mais il la retrouve vraiment au paradis. Pourquoi est-ce que c'est Béatrice qui doit jouer le rôle de guide ici et prendre le relais de Virgile ?
C'est une grande question. Grande question et qui est controversée. On est les héritiers, heureux du reste, d'un grand livre de Charles Singleton qui donne ses clés pour interpréter la Divine Comédie comme un voyage à Béatrice. Et en effet, Dante se prépare, est conduit par Virgile et au sommet du purgatoire, c'est-à-dire au paradis terrestre, là où l'homme était heureux, c'est là que Béatrice apparaît. Mais apparaît pour tenir un sermon très dur contre Dante, en disant, mais finalement, tu n'as pas été fidèle. Alors, comme Dante suivait les fidèles d'amour, il y a contradiction dans la vie de Dante. Dante est extrêmement contrarié, il doit baisser la tête, il pleure, et alors c'est une apparition comme un admiral à la poupe. Béatrice se présente comme un général extrêmement sévère. Et alors, petit à petit, dans les champs du paradis, Béatrice redevient ce qu'elle était, c'est-à-dire la beauté, la grâce, la vertu qui peut permettre à l'homme de s'ennoblir. Il faut dire aussi, pour présenter toute la structure de la Divine Comédie, que déjà au commencement de l'Enfer, Virgile explique bien quel est le rôle de Béatrice. L'annonce est faite déjà au commencement du voyage. Il dit qu'il y a une dame au paradis, la Vierge, Vierge qu'on ne peut pas nommer dans l'enfer, parce que c'est un lieu de damnation, qui a envoyé Lucie, laquelle envoie Béatrice, parler à Virgile pour porter Dante. Il y a donc toute une série de guides successifs. Ce qui est curieux et qui explique bien le fait que la Divine Comédie s'est faite pendant des longues années, pendant 15 ans, on dit qu'en principe, Dante a commencé la Divine Comédie en 306, même s'il fait semblant qu'elle commence l'année du jubilé de l'année 1300, et elle termine les jours derniers de la vie de Dante, en 1321. Donc ça fait un long chemin. Et dans ce chemin, Dante a pu changer d'avis. Notamment, il a réduit le rôle de Lucie, qui n'apparaît qu'au chant 9 du purgatoire, au lieu de la voir après Béatrice au paradis, et au lieu de Lucie au sommet du paradis, nous retrouvons Saint Bernard. Saint Bernard est donc l'un des rares personnages qui, c'est un saint qui avait chanté la Vierge dans ses sermons, et Dante le choisit précisément pour préparer cette espèce de prière à la Vierge qui occupe le commencement du chant 33 du paradis. Mais aussi, comme il l'avait fait pour Virgile et pour Béatrice, qui sont représentés avec les mots mêmes, Virgile de l'Énéide et Béatrice, des termes que Dante avait employés dans ses rimes pour la chanter, eh bien, Saint Bernard est représenté aussi avec les traits qui marque sa prédication, et notamment l'image constante du nourrisson. Dante revient un petit enfant. Au lieu de monter dans une espèce d'orgueil de gloire, plus il monte, plus il devient petit.
Et l'image de l'allaitement revient à plusieurs reprises en paradis.
Oui. Alors, il y a un texte, cette fois, d'une dame, donc d'un savant français, Sylvie Barnet, qui a pu montrer que, à l'époque où Dante rédigeait le paradis, des enluminures commençaient à circuler sur l'allaitement miraculeux fait par la Vierge de Saint Bernard. Et Dante, pour se rapprocher, utilise les mêmes termes. C'est-à-dire, comme un enfant court au sein de sa mère, comme un nourrisson est nourri par sa mère, au chant 30, 31, 32, on a ces images. Donc il y a une espèce de retour à l'enfance, non seulement le balbutiement de quelqu'un qui est infance, c'est-à-dire incapable de parler. Il ne faudrait pas rester sûrement à l'image de la limite et de l'impuissance, mais tenir compte qu'en réalité, Dante espère avoir le même miracle que Saint Bernard eut de la Vierge, c'est-à-dire d'être à son tour, comment dirais-je, nourri par le lait, par la saveur, par la sagesse venant de l'intercession de la Vierge.
Il y a une lecture possible de la Divine Comédie et du Paradis en particulier comme étant le souhait d'un retour en enfance qui est le seul lieu de l'innocence selon Dante. C'est en tout cas ce qu'on lit au chant 23 du Paradis, écoutez.
Ô cupidité, qui noie les mortels si profonds sous toi que nul n'a pouvoir de tirer les yeux hors de tes ondes. Le vouloir fleurit bien chez les hommes, mais la pluie continuelle change les prunes vraies en avortons. Foi et innocence se trouvent seulement chez les petits enfants, puis elles s'enfuient avant que leurs joues soient couvertes. Tels jeunes encore balbutiants qui dévorent ensuite à langue déliée n'importe quel mot par n'importe quelle lune, et tels balbutiants aiment et écoutent sa mère qu'ils désirent ensuite voir ensevelie. Ainsi la peau blanche devient noire, à l'apparition de la belle fille, de celui qui amène le matin et laisse le soir. Toi, pour ne pas en être étonné, pense que personne ne gouverne sur terre. C'est pourquoi est déviée la nature humaine. Mais avant que janvier sorte de tout l'hiver, à cause de la centième qu'on néglige sur terre, ces cercles supérieurs rayonneront si fort que la fortune tant attendue tournera les poupes là où sont les proues, si bien que la flotte courra tout droit et le vrai fruit viendra après la fleur.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, le paradis de Dante nous occupe aujourd'hui. Nous sommes en train de l'arpenter en compagnie de Carlo Ossola, qui est professeur au Collège de France et qui est notre guide le temps de cette émission. C'est au chant 27, non pas 23, comme je l'ai dit, qu'on entend cette réflexion sur l'enfance. Foi et innocence se trouvent seulement chez les petits-enfants, puis elles s'enfuient avant que leurs joues soient couvertes. Tel jeune encore balbutiant, dit Dante, qui dévore ensuite à langue déliée n'importe quel mot par n'importe quelle lune, et tel balbutiant aime et écoute sa mère, qu'avec tout son langage il désire ensuite voir dans la tombe. La métaphore de l'enfant est aussi celle de la langue qui préoccupe Dante, et notamment au paradis, beaucoup de chants commencent avec l'impossibilité de dire ce qu'il voit, puisque ça dépasse son entendement et son imagination.
Oui, tout à fait. La conscience très moderne de Dante de l'impuissance de la langue arrive même au chant 26 du Paradis à représenter par les mots que Adam, le premier homme, prononce, le fait que nous n'avons même plus la mémoire du nom de Dieu qui a changé. Si Saussure avait lu ce passage, eh bien, il aurait eu une confirmation de l'arbitraire des signes. Et, comment dirais-je, tout est posé dans le temps et sous le sceau du temps. Il n'y a rien qui continue. Hein. Nous sommes, en effet, après Babel. Nous sommes victimes de Babel, y compris la langue de Dante. Il est parfaitement conscient de cette impuissance et c'est pourquoi il multiplie surtout au paradis, l'inadéquation de la parole humaine à la réalité qu'il voit. Et vous avez lu ce chant 27, merveilleux, c'est le chant où Dante répète encore une fois le voyage fou d'Ulysse, il folle varco d'Ulysse. Et donc, au lieu de monter en orgueil, il descend en humilité. Le balbutiement est le signe aussi de cette attitude humble qu'il faut prendre quand nous sommes conscients qu'aucune parole, aucun mot, aucune définition n'est adéquate. Et il y a là, chez Dante, cette magnifique, je dirais, conscience et je dirais aussi tension entre la réalité éternelle qui est représentée et les mots faibles qui la représentent.
Et pourtant, il écrit la Divine Comédie.
Voilà, il a eu un grand courage. Il a d'abord voulu parler de l'éternel, non pas avec la langue qui était considérée éternelle, c'est-à-dire le latin, mais il a fait son poème tout en prenant comme guide Virgile, qui était le grand auteur de la langue latine. Il a voulu rédiger son texte en langue vulgaire, tout en introduisant de temps en temps des phrases latines et même des mots dont on connaît pas l'origine, comme Pépé Satan, Pépé Alep, c'est-à-dire ces mots qui sont prononcés en enfer et qui semblent être des mots des diables inconnus par, je dirais, notre sémantique humaine. Donc dans ce...
Il invente des mots.
Beaucoup. Oui, oui, tout à fait. C'est un homme qui a inventé plusieurs néologismes, notamment pour parler de Dieu. Par exemple, ingluyarsi, entrer dans son mystère, et intrearsi, c'est-à-dire comment Dieu peut être un et trois en même temps. On est plein de surprises à cause de cette liberté de Dante de créer des mots. Et là, on pourrait même dire que ce qui est nouveau dans la Divine Comédie, c'est que, aussi bien en enfer qu'au paradis, la conscience d'être dans une réalité plus grande que la réalité humaine oblige Dante à forger des mots pour exprimer ce qui nous dépasse. Et je dirais que quelquefois le néologisme est le signe même de ce dépassement. Le néologisme, non pas comme invention, mais comme, pas seulement comme invention, mais comme dépassement.
Et c'est le moment où la langue bascule vers la poésie, précisément. Vous disiez qu'il avait une dimension philosophique très forte dans la Divine Comédie, mais c'est aussi un travail sur la langue, à la recherche du mot le plus exact pour nommer ce qui est, quitte à l'inventer. Mais aussi, on sent un plaisir, une délectation à jouer avec ces mots et à faire entendre, grâce aux mots, à faire même imaginer ou concevoir ce que les yeux humains ne pourront jamais voir. Tous les jeux de lumière qu'on trouve au paradis sont absolument fascinants et très difficiles à décrire.
Tout à fait. Il y a un passage magnifique de l'entretien sur Dante de Osip Mandelspatam. Je me permettrai de le lire parce que il dit exactement ce que vous venez d'évoquer. Et il dit, cette frénésie de la lumière et de la couleur, on peut la qualifier de passion textile plutôt qu'alphabétique. Voilà. Et donc, Dante est quelqu'un qui fait une sorte de tissage de couleurs. Et Mandelstam conclut, la plume calligraphie les lettres, elle trace nom propre et nom commun. Et la plume est aussi un petit morceau de la chair des oiseaux. Et Dante, qui jamais n'oublie l'origine des choses, tout naturellement se souvient de ce fait. Et donc, il unit, je dirais, la couleur et le vol de la langue. Et il cite six vers du chant 18 du Paradis. « Est-elle un vol d'oiseau levé à la rivière ?» Comme chantant, on revient au chant, ses grâces à la becquée se forment tantôt en ronde et tantôt en fil, ainsi, au cœur de ces lumières de sainte créature, chantées en leur vol et faisant d'elles-mêmes tantôt la lettre D, tantôt la lettre I, ou bien la lettre L en leur figure.
Lorsque contre la vie présente des pauvres mortels m'eût ouvert le vrai, celle qui emparadise mon âme, comme apparaît dans un miroir une flamme de torche à celui qui en est éclairé par derrière, avant qu'il l'ait dans son regard ou en pensée, et qu'il se retourne pour voir si la vitre lui a dit le vrai, et voit qu'elle s'accorde avec lui comme un chant à son rythme. Ainsi je fis, ma mémoire s'en souvient, en regardant dans les beaux yeux dont amour fit la corde pour me pendre. Et quand je me tournais et que les miens furent frappés par ce qui paraît dans ce ciel lorsqu'on observe bien dans son cercle, je vis un point irradiant une lumière si aiguë que le regard qu'il brûle doit se fermer à son éclat vif. Et l'étoile, qui semble ici la plus petite, paraîtrait lune, placée auprès de lui comme une étoile auprès d'une autre étoile. Aussi proche peut-être qu'apparaît le halo de la lumière qui le colore quand la vapeur qui le porte est plus dense, tournait autour du point un cercle de feu, si vite qu'il aurait dépassé le mouvement le plus rapide qui ceint le monde. Et il était entouré par un autre, et celui-ci par le troisième, puis par le quatrième par le cinquième, et le cinquième par le sixième. Au-dessus venait le septième, si étendu en largeur que le messager de Junon serait étroit pour le contenir en entier. De même, le huitième et le neuvième, et chacun d'eux tournait plus lentement, selon qu'il était plus distant en nombre de l'unité. Et celui qui avait la flamme la plus limpide était la plus proche de la pure étincelle, car il se pénètre, je pense, le plus d'elle. Carlo Ossola, le chant 18 est un des plus beaux du Paradis, non? Je ne demanderai pas quel est votre préféré, mais c'est un de celui en tout cas qui laisse une empreinte indélébile sans doute. Et voici donc, pour donner un exemple, vous en citiez quelques vers, j'en ai lu d'autres, la façon qu'a Dante de s'emparer du langage pour décrire la lumière. On a ce beau néologisme en français, ça donne voilà, la lumière qui emparadise mon âme. Et on voit ici que toute description de la lumière est indissociable du mouvement. Vous aviez commencé avec ce point-là, hein, ce sont les sphères qui animent le paradis, ce sont des sphères en mouvement, comme la voûte étoilée.
Exactement, j'ajouterais dans les vers que vous avez lus, il y a aussi cette conscience de la danse. Hein. Dante est quelqu'un qui connaît parfaitement les arts humains, les arts de la main, par exemple la peinture, l'enluminure, mais aussi les arts du corps. Et petit à petit, il passe, pour ainsi dire, de la bataille qu'on voit souvent, bataille de corps, bataille de diable dans l'enfer, à la danse. Déjà, au moment où Béatrice apparaît, de plus en plus au paradis, puisque la danse est en même temps mouvement harmonique du corps et aussi rythme. Le rythme qui est l'essence même de l'unité, profonde, comme vous l'avez vu, des sphères, et de notre manière de nous harmoniser au rythme des sphères célestes. Donc, je crois que, en effet, le chant 18 du paradis est un résumé de l'unité profonde du corps et de la lumière. Dante n'oublie jamais le corps. Je ne voudrais pas qu'on pense que le paradis est un lieu abstrait. Hein, Saint-Pierre, à la fin du paradis, dit même « cloaque » pour condamner son successeur Boniface VIII. C'est plutôt Dante écrivain qui condamne Boniface VIII. Mais en même temps, donc, le corps est là, mais pour quelle raison? Et Dante pose la question. Il dit à l'un des bienheureux, « Mais pourquoi vous souhaitez retrouver ce corps humain au jugement dernier ?» Donc, il y aura la résurrection des corps.
Parce que ce ne sont que des âmes au paradis, c'est
oui,
ça, non
c'est
pas encore
des
corps.
Des âmes, oui, c'est un problème pour lui de faire apparaître des formes de lumière. Hein. Aujourd'hui, avec les installations, nous pourrions mieux interpréter le paradis. Hein. Il faudrait du reste le faire. Et alors, les âmes répondent avec quelque chose qui est très touchant, qui nous ramène à Dante orphelin. Et ils disent, eh bien, nous, on est, oui, dans la perfection de la gloire, mais nous souhaitons revêtir notre chair, non pas pour nous, mais pour être reconnus par nos mères, par nos pères, par nos proches, pour les embrasser. C'est quelque chose de très touchant et de très humain. Il n'y a pas l'abstraction ou une espèce d'évacuation de la chair pour entrer dans une lumière éternelle. Non, le corps se perfectionne, pour ainsi dire, devient un corps de danse, devient un corps de lumière, mais il reste un corps plein de notre substance humaine.
On racontait hier avec Emanuele Granolati l'étreinte manquée entre Dante et son ami d'enfance qu'il retrouve au purgatoire, Casella, je crois, il s'appelle.
Oui, Casella. Oui.
Casella, voilà. Oui. Et comme ce sont des âmes sans corps, simplement drapées d'ombre, pour qu'on puisse les voir et qu'elles existent, ils ne peuvent pas se prendre dans les bras. Et Dante raconte avec douleur l'étreinte impossible avec son meilleur ami.
Tout à fait, tout à fait. L'amitié reste aussi l'un des grands thèmes tout à fait humains de toute la Divine Comédie. Bien sûr, le purgatoire est le lieu spécifique de l'amitié, mais le paradis également. Il y a des moments très touchants quand Dante retrouve une partie de sa famille. Et là, on voit bien, pour lui, la fidélité de l'amitié fait partie aussi de... Je dirais même que cette formule de guide après guide, c'est aussi amitié plus amitié plus amitié.
Et alors, pourquoi Béatrice passe-t-elle le relais, si j'ose dire, à Saint-Bernard en dernier lieu? Parce que c'est Saint-Bernard qui le conduit vers le
l'Empyrée. Ah, c'est une grande question. La critique aujourd'hui n'est pas complètement d'accord sur ce point. Moi, je crois que avoir trop misé sur Béatrice, c'est le legs du 19e siècle, le legs voilà, des auteurs qui ont dépeint tout d'abord la rencontre avec Béatrice comme le maximum de bonheur. Mais le texte de Dante dit autrement, donc il faut être fidèle au texte de Dante. Et moi, je pense que Dante est fidèle au projet qu'il avait fait au commencement. Nous pourrions dire que la Divine Comédie est la mise en parole de la cathédrale de Florence. Laquelle cathédrale, au moment où Dante est encore présent dans sa ville d'origine, avait déjà le projet pour la façade d'Arnolfo Di Cambio. Et on le voit maintenant dans le magnifique musée de la cathédrale qui a été restauré. Et sur un portail, en entrée, il y avait l'Annonciation, puis il y avait le Triomphe de la Vierge, porte centrale, et de l'autre côté, la Dormitio Virginis, c'est-à-dire la Vierge qui monte au ciel. Et au fond, la Divine Comédie est, à mon sens, la volonté de Dante de refaire cette cathédrale qu'il ne pourra jamais voir, et donc d'être accompagné à ce triomphe de la Vierge. Il ne peut rien dire de la divinité, c'est un mystère qui nous dépasse, mais il peut tout dire de la Vierge. C'est un poème marial, pour ainsi dire, et on le voit très bien, il termine sa vie à Ravenne, dans un lieu, dans le haut lieu de la tradition byzantine en Italie, au cœur des mosaïques, l'or éternel de ce visage qui vous regarde. C'est eux qui regardent, pas nous, c'est eux qui nous regardent. Et la Divine Comédie, dans le paradis, c'est ce regard de l'éternel, mais lumineux, plein d'or, qui vient vers nous, exactement comme les regards de Saint Vital et Ravenne, les empereurs, les dames qui vous regardent, qui viennent vers vous. Et je dirais que la Divine Comédie, d'une certaine manière, est, dans le paradis en tout cas, le plus beau poème byzantin, la plus belle, je dirais, continuité de l'héritage de Byzance. L'Italie était pleine à cette époque-là de témoignages de Byzance, je dirais de Ravenne à la cathédrale de Cefalù. Il suffit d'aller voir là le Christ Pantocrator de Cefalù pour comprendre un peu du paradis de Dante. Donc Dante, un poème marial, un poème byzantin, un grand triomphe de la lumière, de l'or éternel.
On va écouter ensemble les derniers vers du paradis. Nous sommes au chant 33 et Dante est pris d'une haute vision dans laquelle la Trinité se révèle à lui sous la forme d'un triple cercle, dans lesquels on voit un visage qui ressemble étrangement à un être humain. Écoutez les comparaisons qu'il emploie à ce moment-là, et donc les derniers vers qui ferment, mais surtout ouvrent, ce texte sublime. Écoutez.
Ma parole désormais sera plus courte, même au regard de ceux dont j'ai mémoire que d'un enfant qui baigne encore la langue au sein. Non pas que plus d'une seule apparence fût enclose dans la lumière que je voyais, car elle était toujours telle qu'elle était alors. Mais pour la vue, qui gagnait en valeur en moi qui regardais, une seule apparence, tandis que je changeais, pour moi se transmuait. Dans la profonde et claire subsistance de la haute lumière, trois cercles m'apparurent, de trois couleurs et de grandeur unique. Et l'un par l'autre, comme iris en iris, paraissait réfléchi. Et le troisième, semblait un feu qui, d'ici et de là, pareillement respire. Oh, comme le dire est faible et qu'il est court à ma pensée. Si court devant ce que j'écris que dire peu ne suffit pas. Ce cercle ainsi conçu, qui semblait en toi lumière réfléchie, longuement contemplée par mes yeux à l'intérieur de soi, de sa même couleur, me sembla peint de notre image, si bien que mon regard était tout en elle. Tel est le géomètre, attaché tout entier à mesurer le cercle, et qui ne peut trouver en pensant le principe qui manque. Tel j'étais moi-même à cette vue nouvelle. Je voulais voir comment se joint l'image au cercle, comment elle s'y noue. Mais, pour ce vol, mon aile était trop faible. Sinon qu'alors, mon esprit fut frappé par un éclair qui vint à son désir. Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance. Mais déjà, il tournait mon désir et vouloir, tout comme roue également poussée, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
Ce texte vous fait le même effet à chaque fois que vous le lisez, Carlo Ossola?
Oui.
Parce que j'imagine que c'est loin d'être la première fois que vous l'entendez.
Oui, vous savez, on a commencé par l'humanisme de Dante, et je crois qu'il faut terminer par cette extraordinaire nouveauté qu'il met à la fin de la Divine Comédie, c'est-à-dire que la Trinité, en son centre, est dépeinte de notre visage. La Trinité, le mystère de Dieu a notre visage. Alors, évidemment, nous sommes d'un côté dans la pure lettre, puisque le centre de la Trinité est le Christ et que le Christ s'est incarné. Mais en même temps, comme nous sommes au sommet du paradis, on serait tenté d'imaginer je ne sais quel mystère, quelle abstraction. Non, il dit... voilà, après avoir fait tout ce cortège d'images, le géomètre, enfin toutes les formules mathématiques et géométriques du monde, il arrive simplement à dire, voilà, tout ce mystère est simplement notre visage. Et il s'adresse à ce visage, il dit, dans le texte italien du reste est très fort, « perché il mio viso in lei, c'est-à-dire nostre figlio, notre visage, tutto era messo. Je me suis concentré dans ce visage qui est le nôtre. » Alors, évidemment, me semble-t-il, la Divine Comédie commence et termine avec cet éloge de l'humanité. Et je crois que l'une des grandes émotions que nous avons est aussi liée au fait que, après avoir contemplé la Trinité, Dante revient au temps. Même s'il n'y a que deux vers, Dante n'est pas, je le dis souvent, Dante n'est pas un mystique qui, après avoir eu la vision, croit adhérer à, je ne sais pas, à la Trinité, à Dieu, etc. Non, c'est quelqu'un qui a eu ce privilège et puis est restitué au temps humain. Et comme il le dit, l'amour qui move il sol et l'altre stelle. Il rentre dans le mouvement
l'amour
du temps.
L'amour qui meut le soleil et les autres, étoiles.
Voilà. Et donc, lui aussi entre à nouveau dans le temps. C'est un seul vers, mais c'est un vers de congé extraordinaire. Dante prend congé de son poème et nous restitue nous-mêmes au temps. Donc, avec une conscience parfaite, je dirais, du poème qui se sépare de son auteur. Nous ne sommes pas les propriétaires, enfin nous, le poète n'est pas propriétaire de son poème. Le poème est légué au lecteur, c'est peut-être l'invention même du lecteur. Ce vers final de la Divine Comédie est peut-être la plus grande invention du lecteur. Là aussi, Dante est très moderne. il donne son poème au lecteur, puisque lui aussi entre dans le temps, qui est le temps du lecteur. Donc, c'est une éternité, comment dirais-je, remise dans les mains du lecteur.
Merci beaucoup, Carlo Ossola, d'être venu nous parler du paradis aujourd'hui.
Mais je vous remercie d'abord de votre lecture si sensible. Et je dois aussi vous dire que les deux lecteurs ont parfaitement, je voudrais les remercier in absentia, parce que les deux ont eu vraiment une grande grâce, peut-être que la parole de Dante modèle aussi nos mots, mais une grande grâce de lecture. Et je dirais que Dante devrait être heureux de cette heure qui a passé avec nous et nous avec lui.
On se quitte avec la fin de la comédie. C'est une comédie quand même, la Divine Comédie. Reste à savoir ce que ça signifie, mais aujourd'hui, bien, finie la comédie.
C'est fini la comédie, tout avait commencé comme une pièce à succès dans le décor tout bleu d'un théâtre de banlieue. Nous n'étions que nous deux. On s'est aimé longtemps, au point d'oublier le temps qui tout au long des scènes transformait les joies en peine. Il a gagné le temps, il est content quand il nous voit chacun de son côté comme des étrangers. Nous n'avons plus en commun que les mots quotidiens.
De Carlo Ossola à Dalida et de Dalida à Géraldine Bosna-Savoie, il est l'heure sur France Culture de retrouver le journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même, c'est incroyable.
Bonjour chère Géraldine, quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui ?
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Eh bien l'actualité du jour, c'est la revue Ligne, qui fête avec son numéro d'octobre ses 30 ans. Fondée par Michel Suria, on retrouve dans ce numéro spécial de nombreux contributeurs à la revue depuis 1987. Jean-Luc Nancy, Pierre Guyotat, Jean-Loup Anselme ou encore Georges Didier Huberman. Et sans oublier bien sûr Jean-Paul Curnier, disparu cet été mais dont la présence plane sur cet anniversaire. Il faut le dire, c'est un anniversaire particulier pour cette revue à l'esprit révolutionnaire et insurrectionnel, puisque ce numéro est marqué par ce qui se passe ici et maintenant. C'est le titre du numéro d'ailleurs, ce qui se passe ici et maintenant politiquement, des Nuits debout en 2016 à ces nouvelles élections présidentielles. Moment politique présent qu'il s'agit donc de questionner dans ses mots, son langage, ses discours, même vides, pour leur redonner du sens, comme me l'a expliqué la philosophe Mathilde Girard au téléphone, qui participe à ce numéro et fait partie du comité de la revue.
Dans tous les textes, d'une certaine façon, c'est une question. Qu'est-ce qu'une pensée politique et qu'est-ce donc qu'un langage qui essaierait de tendre vers cette dimension peut, quand tous les mots sur lesquels s'appuyait ces propositions et ces promesses politiques, comme le mot révolution, le mot communauté, le mot commun, tendent à perdre considérablement de leur valeur et de leur sens. pour chacun et pour tous. À l'évidence, ces mots, maintenant, appartiennent ou semblent passer justement du côté de la littérature, et alors peut-être qu'il revient à la littérature et à la poésie de les faire revenir, hein, mais dans l'espace public, la communication peut-être aussi est en jeu dans le fait d'avoir fragilisé la possibilité que des paroles vraies se disent. C'est très difficile de parler, hein. Je crois qu'on a vu ça dans les assemblées de Nuit Debout, prendre la parole politiquement, c'est très difficile. Et on en est là.
Il semble donc difficile de parler, de prendre la parole dans ce moment politique pessimiste. C'est pourtant le sens d'une revue et c'est le sens de cette revue Ligne qui, de la psychanalyse à la photographie, de la littérature à la philosophie, tente, comme le fait aussi Mathilde Girard dans son article « Prise de tête », de combler la déroute des mots, et bien par des mots justement.
Ligne, c'est un espace de pensée politique et philosophique et littéraire. Il y a aussi des interventions littéraires dans le numéro. Bon, ça, mon texte en parle, dans un numéro précédent j'en parlais aussi. Une revue est quand même un des derniers espaces où il ne s'agit pas de communiquer, mais de réinvestir ou de reposer la question du langage, langage écrit, mais aussi qu'est-ce que c'est que parler. J'avais parlé de Nuit Debout, quel est le rapport entre le langage et l'action. Et peut-être que le pessimisme actuel viendrait du fait qu'il y a une déroute quant à la possibilité pour chacun de s'exprimer politiquement. Alors oui, il y a quelque chose qui est perdu, mais je crois que, en tout cas, le numéro essaye de réagir par une forme de colère dans cette situation plutôt que de pessimisme.
Mais de quel sens parle-t-on ? La question du sens a en effet deux dimensions. D'abord celle de la signification des mots et puis celle aussi de l'avenir, des possibles, de la direction à prendre. Cette question est donc d'autant plus lancinante que l'ici et maintenant est celui de la colère, de la déroute ou encore de l'impossibilité à saisir le présent. Et oui, si la communication vide le langage de son sens, comment résister aux lignes de force qui s'annoncent pour l'avenir ? Quel est donc le sens de l'avenir ?
La question du possible et la question de l'avenir, elle a été quand même, pour la plupart d'entre nous, portée par quelque chose de, sinon la promesse révolutionnaire, en tout cas, quelque chose qui s'appelait l'émancipation. Bon, cette articulation-là, elle est effectivement plus audible, ou en tout cas, c'est pas celle que les discours, que l'état des choses nous permet de poursuivre. Michel Suria parle de régression, de situation de régression. Là, je pense à un passage du texte de Sophie Vaniche qui parle du clivage d'un monde où il faut vivre sans que ce soit la guerre et sans que ce soit la paix. Quel sens et quel signifiant, quel terme on peut se donner pour penser l'avenir? Moi, ça, je ne sais pas. Ce que je me dis et ce que je pense que à quoi la revue pourrait s'accorder, c'est que de toute façon, un homme, un être humain quel qu'il soit, passe dans sa vie par des moments dans lesquels il doit se révolter.
La révolte nécessaire ou le clin d'œil à Camus, c'est dans l'article de Paul Audy, dans cette revue Ligne donc, qui fête ses 30 ans et qui est parue aux éditions Ligne.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci aussi à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Claire Perriman-Holt, vous Géraldine Mossa-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morse-Duncan qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi où j'aurai le grand plaisir de recevoir le philosophe Maxime Rovert, qui fait paraître une biographie romanesque de Spinoza en son temps, le clan Spinoza. Ça, ce sera demain à 10h. D'ici là, pour écouter l'émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales du jour. Vous pourrez aussi la réécouter en ligne et la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur leur compte Twitter et Facebook. Twitter, le compte des Chemins de la Philosophie. Nous y attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.